L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous allons aborder sur le sujet de la mission que nous abordons sur toute une série d'émissions. La mission du couple, l'appel à témoigner du Christ au sein du couple, au sein de la famille et à l'extérieur, dans tous nos différents milieux de vie, dans notre maison, dans nos différents engagements, etc. Que l'évangélisation, c'est l'anti-pharisaïsme. Et souvent, c'est un peu la critique qui est faite en disant « Ouais, la mission, vous mettez en avant, machin, c'est pharisien, Jésus a dénoncé les pharisiens, etc. etc. » Et c'est vrai. Et donc, on va essayer, Maud, pendant cette émission, d'aborder cette question. Pharisaïsme et évangélisation, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un danger, il n'y a pas des écueils, etc. etc. Donc, on va essayer d'aborder cette question. Et d'abord, nous allons, Maud, lire un texte important chez Matthieu, au chapitre 23.
Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples. Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le. Mais leurs œuvres, ne les faites pas, car ils disent et ne font pas. Ils lient de lourdes charges sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne remuent pas le petit doigt. Leurs œuvres sont faites pour se donner en spectacle aux hommes. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners et les synagogues, les salutations sur les places publiques, et se faire appeler rabbi. Mais vous, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé.
Et ben voilà un texte vraiment très très important, une apostrophe profonde de Jésus, qui parle aux foules, qui parle aux disciples, et qui met en garde tous ses amis face au pharisaïsme qui nous mine tous ou qui nous menace tous. C'est une mise en garde très forte.
Oui, et puis qui concerne non seulement les rabbis et les maîtres de l'époque, mais qui nous touche tous, et tous ceux qui en particulier ont une responsabilité dans l'Église, ou qui annoncent et qui se mettent en avant par leur mission ou par leur responsabilité, et bien voilà qu'il y a eu un écueil, et c'est justement de dire et ne pas faire, donc d'avoir une dichotomie entre le comportement, l'acte et puis ce qu'on annonce. Alors évidemment, c'est tragique d'entendre ça, parce que quand on annonce la parole de Dieu, il y a forcément une dichotomie entre ce qu'on annonce et ce qu'on met en œuvre. On n'est jamais capable de mettre tout à fait en œuvre toute la parole.
Voilà, et donc d'ailleurs c'est une invitation, on en profite, hein, on ne l'a pas fait souvent jusqu'à maintenant, mais à prier pour nous. Là, effectivement, Alex et Maud, là, vous êtes très très pharisiens, depuis bientôt 70 émissions, on vous écoute sur toutes les différentes ondes, etc. Et bien, vous êtes profondément pharisiens, oui, c'est possible, priez pour nous. On a essayé de s'en préserver dans toute la mesure du possible, en étant le plus en vérité devant vous, ne cachant pas aussi nos pauvretés, tout en étant discret, mais vraiment c'est toujours une ligne de crête extrêmement délicate, et donc nous avons constamment à être en vigilance par rapport à ça. Et d'ailleurs c'est une question que nous essayons toujours de relire avec notre père spirituel, dans notre vie de prière, en faisant attention à ce qui est les fruits qu'il peut y avoir dans notre cœur. Donc on en profite, et on ferme la parenthèse après, pour que vous puissiez également prier pour nous, et n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire si jamais vous avez trouvé que c'était les moments pharisiens dans nos propos. Voilà. Revenons donc à cette analyse, à ce discernement entre la mission et le pharisaïsme, les comportements pharisiens.
Jésus interpelle lui-même dans un autre passage de l'évangile en Marc 7 « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Son culte est vain et les préceptes qu'il enseigne sont des lois humaines. » Donc là encore, Alex, on voit bien que le problème vient du cœur. C'est-à-dire, quelle est l'attitude du cœur ? Annoncer par débordement du cœur, c'est pas du tout la même chose que annoncer une théorie ou une morale, ou même une religion aussi bien soit-elle, sans être impliqué soi-même dans cette œuvre de conversion et de salut. D'ailleurs, ce que les jeunes sont particulièrement réceptifs à ça. Ils savent très bien quand quelqu'un parle de la foi, si son témoignage sonne juste, comme ils disent. Et ça les touche quand il y a une vérité, c'est-à-dire quand la personne est impliquée dans ce qu'elle dit, et que ça ne sort pas simplement d'un discours, que ça ne sonne pas creux. On sent très bien si celui qui annonce est touché par ce qu'il dit, ou s'il le dit de l'extérieur de lui-même.
L'écueil pharisien en la matière, c'est la dichotomie entre le parole, le cœur et les actes. Et puis il y a d'autres points aussi plus focalisés. Ce sont par exemple ce que Jésus, quand il parle de pharisiens qui a quitté la dîme et omettait la justice et l'amour de Dieu. Alors voilà, on va faire une petite chose qui effectivement va avoir une bonne image, mais par derrière, on est profondément injuste avec ses serviteurs ou avec les gens avec qui on travaille. Voilà, donc des attitudes humaines et spirituelles qui sont profondément contradictoires et qui ne sont pas du tout hiérarchisées, qui ne sont pas du tout proportionnelles.
Oui, ou alors une attitude qui va essentiellement se poser sur par rapport au regard des autres. Donc des prières ostentatoires, ils se mettent devant, ils se saluent, ils se font appeler par des noms d'honneur, etc. Et en fait, ils ont une attitude qui va en fait faire plus attention au regard des autres qu'à ce qu'ils vivent à l'intérieur avec le Christ et avec Dieu, quoi.
Voilà, Jésus dit encore, ils disent et ne font pas, ils font peser des puissants fardeaux et les imposent sur les épaules des gens sans eux-mêmes porter ses propres fardeaux. Donc ce sont des paroles et c'est des attitudes profondément mensongères. Voilà, ils font semblant de prier longuement, donc c'est toute la question des prières fausses, ostentatoires et démonstratives, alors que le Seigneur invite, toi quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie le Seigneur dans le secret.
Voilà, puis il y a la question de la miséricorde et de l'attitude miséricordieuse. Il peut y avoir une observance qui est ritualiste, rigoriste des obligations religieuses. Or, Jésus a tellement bouleversé les obligations religieuses, notamment tout ce qui concerne le sabbat. Qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Faire du bien ou faire du mal? Sauver une vie ou la laisser perdre? Oui, effectivement, la miséricorde est première et que parfois la loi doit être mise de côté parce qu'il faut un temps pour que le cheminement arrive à sa pleine maturité et que ça n'empêche pas l'amour du frère qui n'est pas encore entré dans la pleine lumière peut-être des comportements entre guillemets chrétiens, mais qui a besoin de temps pour être évangélisé. Et c'est, ça ne nous empêche pas de l'aimer et de rentrer dans une compassion. Donc il faut faire très attention à la fois, ce que disait d'ailleurs Jean-Paul II, il faut annoncer toute la révélation et aller annoncer, ne pas rabaisser le sommet de la foi. Mais par contre, il faut éclairer le chemin avec miséricorde et ne pas éblouir. Donc il y a une limite qui est un ajustement, une ligne de crête, disait Alex tout à l'heure, qui est très délicate, mais qui fait partie aussi de notre responsabilité de missionnaire.
Voilà, et c'est pour ça que voilà, c'est une belle facette du monde actuel. C'est que le monde actuel est en recherche d'authenticité et de vérité, non pas de docteurs théoriques. Il redoute les théories fumeuses ou les verbiages désincarnés et les thèses contradictoires avec la vie. Et c'est pour ça que nous allons écouter deux textes très importants, l'un de Paul VI et l'autre de Jean-Paul II, qui va éclairer cette situation. Maud, le texte de Paul VI.
Plus que jamais, le témoignage de vie est une condition essentielle de l'efficacité profonde de la prédication.
Témoignage de vie est la condition essentielle de l'efficacité de la prédication.
Le zèle évangélisateur jaillit d'une vie sanctifiée et alimentée par la prière et l'amour. Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'il connaît et fréquente comme s'il voyait l'invisible.
Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous comprenez bien combien nous sommes vraiment aiguillonnés profondément pour que nous ne pouvons missionner que si nous avons fait la rencontre profonde du Seigneur, si nous sommes dans cette intimité avec lui, sinon notre parole, elle est creuse, elle est théorique. Combien de fois, je pense que nous avons à l'image, un certain nombre d'événements, etc., on a des gens qui disent de très belles paroles, mais c'est complètement creux, ça ne nous parle pas, ça ne touche pas au cœur, alors qu'il y a d'autres, tu sens vraiment qu'ils respirent l'évangile, et là on est vraiment bouleversé et secoué de l'intérieur.
Et il y a une autre parole de Jean-Paul II qui est aussi très intéressante pour la mission. L'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, l'expérience que la doctrine et les faits plus que les théories. La première forme du témoignage est la vie même du missionnaire, de la famille chrétienne, de la communauté, qui rend visible un nouveau mode de comportement. Voilà encore un appel pour les familles qui est fort.
Voilà, absolument. C'est vraiment ce témoignage, le témoignage de vie est particulièrement important pour les familles, pour les couples et les familles. Mais, parce que souvent, c'est vrai que peut-être ces dernières décennies, on s'abritait derrière ça, derrière le témoignage de vie, puis après, la parole, on n'en parlait pas. Donc, il faut bien sûr, le témoignage de vie est premier, mais après, il faut pouvoir éclairer ce témoignage de vie par la parole en annonçant le Christ.
Voilà, puis c'est aussi dans la façon d'annoncer le Christ, on peut aussi s'impliquer dans ce qu'on dit, c'est-à-dire que nous sommes aussi en chemin, aussi en processus de conversion, et nous ne sommes pas au-dessus des autres. L'exemple du Christ qu'il a donné, c'est justement celui du lavement des pieds, c'est-à-dire que le Christ n'était, bien sûr, était le maître, mais il s'est mis au service de ses disciples, il leur a lavé les pieds, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il les a purifiés par son geste de service pour qu'ils puissent entrer dans la communion profonde qu'ils allaient vivre dans ce moment absolument bouleversant du Cénacle où il a donné pour la première fois l'Eucharistie. Pour les préparer à recevoir ce don, il s'est mis à leur service. Et comme un serviteur, il a enlevé son vêtement, etc. C'est une très très belle page d'évangile qui est donc le signe du don total du Christ aussi dans sa vie.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Voilà Maud, pour aborder ce sujet délicat de l'évangélisation qui est tout sauf le pharisaïsme. Et pourtant, le pharisaïsme est un écueil important pour les chrétiens d'être des donneurs de leçons, hypocrites, etc. Enfin, il y a beaucoup d'écueils par rapport à la mission et de tomber dans le pharisaïsme.
Oui, et puis pendant les siècles des églises, de l'Église, nous avons souvent effectivement été maladroits par rapport à ça, et l'Église a donné le visage de quelqu'un qui, enfin quelqu'un, je veux dire une institution qui annonce une morale rigide, etc.,
et qui
contraint les gens à y répondre sans comprendre de l'intérieur quelle est la logique qui fait qu'on arrive à ce chemin de conversion. Donc le pape Jean-Paul II avait aussi parlé de la gradualité, c'est-à-dire de ce travail de croissance qu'il faut accepter dans le cœur des chrétiens qui tous sont en chemin vers la sainteté et qui cette étape nécessite du temps, de la patience et surtout pas des jugements.
Voilà, et c'est vrai que cette confusion à des moments entre la mission et le pharisaïsme, comme tu as dit Maud, a parfois provoqué des profonds rejets parfois de peuples. On peut y voir également dans évidemment, certains historiens sont assez clairs par rapport à ça, les racines de la Révolution française, de certaines de anticléricalisme. Bien sûr, il y a tout un aspect du péché des hommes, mais aussi du péché parfois de l'Église qui à des moments n'a pas été respectueuse de l'Évangile et de l'esprit de l'Évangile malgré tout ce qu'elle professait. Et donc, il faut demander pardon par rapport à tous ces errements qui sont infidèles à l'Évangile. D'ailleurs, Jean-Paul II, lors du jubilé en l'an 2000, a, sur plusieurs points, abordé cette question-là et demandé pardon parce que le péché de l'Église, le péché des hommes d'Église, pourrait-on dire plutôt, parce que l'Église est toujours sainte, a fait qu'effectivement ça a provoqué un rejet de la part de certaines personnes. Et donc il faut vraiment que nous ayons un souci de conversion, et c'est pour cela que l'importance de souligner que nous pouvons avoir toutes les plus grandes qualités extraordinaires, les charismes extraordinaires par rapport à la mission, si d'abord nous ne sommes pas dans un travail de conversion de nos vies, de sanctification de nos vies un minimum, et bien effectivement notre mission risque d'être stérile et même risque d'être un contre-témoignage. C'est pour ça que dans ce que tu avais évoqué, Maud, tout à l'heure du texte de Jean-Paul II, il y avait un élément d'une phrase qu'on n'avait pas repris mais qu'on peut reprendre maintenant. L'homme contemporain, d'ailleurs, Jean-Paul II citait d'ailleurs Paul VI, l'homme contemporain croit plutôt les témoins que les maîtres, ou plutôt, il écoute les maîtres parce qu'ils sont d'abord des témoins. Et derrière ce propos, ils sont des témoins, c'est parce qu'ils vivent d'abord de l'Évangile. Ils ont d'abord incarné l'Évangile du Christ dans leur vie, leur témoignage est authentifié, et à ce moment-là, ils sont entendus. Ça a été le cas, par exemple, de l'abbé Pierre, malgré ces quelques, je dirais, erreurs, peut-être, etc. Ce qu'on a entendu surtout, c'est son immense charité qui vient de l'Évangile et son immense, et à ce moment-là, son amour du Christ, de l'Eucharistie, etc., a été énormément écouté. Et il en va de même pour Sœur Emmanuelle, qui, derrière ce côté un peu cabotin, etc., mais vraiment, on sentait une femme profondément authentique, en vérité, et donc elle était entendue. Et donc les témoins qui sont le plus, je dirais, aimés, c'était pareil pour Sœur Teresa à un niveau mondial, etc., etc. C'était vrai pour Martin Luther King. Voilà, ils ont aimé le Christ, ils l'ont mis en pratique, et à ce moment-là, effectivement, ils sont écoutés sur le fond.
Oui, on a donc bien deux pistes majeures sur ce qui peut nous permettre d'éviter le pharisaïsme. On a dit effectivement que c'était l'humilité. Et puis, comme tu dis, d'annoncer, le contenu de l'annonce aussi est important. Qu'est-ce qu'on annonce ? On n'annonce pas un modèle de vie, on annonce une rencontre, un contenu, et le fait qu'on est sauvé. Et c'est parce qu'on est sauvé avec ceux qui nous entourent, que le Christ a donné sa vie pour nous comme pour les autres, qu'à ce moment-là, on peut annoncer fortement et qu'on n'est pas là en train de faire rentrer les gens dans un moule qui ne commence pas par le début. On commence d'abord par le rencontrer le Christ et ensuite on ajuste sa vie. Si on annonce que de la morale, on n'arrive pas à toucher les cœurs et à ce moment-là, il y a un mécanisme de rejet. Parce que la morale, forcément, elle fait partie d'une conséquence et ce n'est pas la première pierre de l'édifice.
Je prends un exemple. Nous accompagnons régulièrement des couples vers le mariage, et là, comme la très très grande majorité de ceux qui se présentent au mariage vivent déjà ensemble, et bien dans plusieurs cas et situations, il ne s'agit pas, bien sûr, on sait très bien que ce n'est pas conforme à, entre guillemets, à la loi de l'Église, au dessein, à la révélation, effectivement, de vivre ensemble avant le mariage, pour X raisons qu'on a déjà développées par ailleurs. Mais c'est effectivement, si on présente cette question-là, et bien il y a blocage, et c'est pas la question. Par contre, il nous faut revenir, en travaillant à l'accompagnement de ces couples vers le mariage, sur le sens profond de la révélation. Sur le sens profond aussi de la liberté du choix, pour poser un choix, etc., etc. Donc on va revenir à des questions fondamentales, existentielles, évangéliques, etc., etc. Et au fur et à mesure, nous avons plusieurs cas où effectivement, des couples, même à un moment des couples qui sont pas forcément clairs dans leur foi, à un moment disent « c'est pas possible ». Effectivement, il faut qu'on revive un temps de chasteté ou de continence. Et même certains disent, mais il faut qu'on retrouve une certaine indépendance et on va reprendre chacun un logement pour le temps de discernement, etc., de poser l'acte, etc., parce que c'est là qu'est notre acte de liberté. C'est pas des règles qui s'appliquent. On s'en fout des règles qui s'appliquent s'il n'y a pas de sens. La question, c'est de revenir toujours à l'essence des choses. À l'essence des choses, de ne pas juger moralement. mais qu'à un moment, les choses vont émerger. Il en va de même par rapport à tel garçon ou telle fille qui passe de garçon en fille en sortant à droite et à gauche. Il s'agit à un moment de ne pas juger en tant que morale, mais à un moment d'appeler à la conscience de ce qui est vraiment éveillé dans le cœur du jeune, de ce qui se passe, de ce qui est expérimenté, pour relire avec lui si jamais ça porte des fruits de bénédiction ou des fruits qui ne sont pas justes, etc., etc. Et c'est cette lecture existentielle et spirituelle qui fait qu'à un moment, il y a un cheminement qui s'opère. Mais il faut le faire aussi explicitement par rapport au Christ. Parce que trop souvent, effectivement, inversement, on dit il faut prendre les gens là où ils sont, etc. Et on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont et telles que le Christ nous invite à les dire et à les accueillir. Et il ne faut pas avoir peur de révéler les choses, mais aussi avec beaucoup d'humilité, sachant aussi qu'on est tous en chemin les uns et les autres.
Voilà, mais on annonce une voie de salut, ça veut bien dire que s'il y a salut, il y a conversion, il y a cheminement. Le salut, c'est pas un coup de baguette magique où tout est donné en une seule fois. Donc l'annonce missionnaire doit justement trouver cet équilibre entre annoncer la foi et toute la foi, et à la fois respecter le chemin de chacun par rapport à ce projet de salut au fur et à mesure que la personne découvre le Christ et découvre l'Église. Donc il y a un chemin progressif qui, justement, et c'est dans tout cet ajustement-là que nous avons à nous situer pour éviter l'écueil du pharisaïsme et éviter le rejet des personnes qui ne se sentent pas accueillies. Mais attention, Alex, tu l'as bien dit, être accueilli ne signifie pas ne pas avoir droit à la vérité. Donc nous ne devons pas édulcorer la vérité, mais par contre la présenter pour qu'elle soit comprise dans le sens profond des choses et pas simplement dans l'application morale qu'elle en a.
Voilà, alors on risque un peu effectivement d'être un peu tombé un peu dans des clichés, mais c'est pour fixer un petit peu les idées. L'annonce évangélique, particulièrement en matière conjugale et familiale, sexuelle, c'est l'anti-bonne morale BCBG ou la présentation du Père la Vertu, hein. Mais c'est le témoignage d'une rencontre bouleversante, d'une expérience centrale qui fait basculer une vie en raison de la miséricorde de Dieu qui nous transforme à un niveau personnel pour un jeune, à un niveau conjugal. Voilà, c'est l'anti-repli vers sur soi, sur un cocon sociologico-religieux, etc. C'est pas les petits cocons, voilà. C'est l'anti-méli-mélo des magots, vous savez, de la charité business, ou du prêt à penser mondain, ou d'un comportement people, ou du politiquement correct chrétien. Voilà, on a beaucoup d'écueils du pharisaïsme, entre guillemets, missionnaire, dans lequel on pourrait tomber. Voilà. Donc, pour vraiment clore, je crois que c'est important de revenir que la seule source de la mission chrétienne, c'est l'élan du cœur qui aime et qui reconnaît le Christ qui nous a sauvés et qui nous a bouleversés. C'est la reconnaissance et le témoignage humble mais convaincant de ce que nous avons reçu, que nous ne pouvons pas garder égoïstement pour nous. Voilà, c'est donc le caractère essentiel de notre humilité, car en se méfiant vraiment, et c'est tout aussi notre vie spirituelle, de l'orgueil qui peut se glisser par des chemins extrêmement tortueux et fort subtils.
Oui, et puis d'accepter d'être aussi remis en cause par des frères ou par des aînés dans la vie spirituelle qui vont purifier nos comportements si jamais nous dérapons et nous ne restons pas dans l'humilité. Mais en général, quand on n'est pas humble, on se prend des bonnes claques et ça nous remet à notre place. Mais justement, c'est important de voir aussi que la vie concrète parfois nous apprend des choses, mais il faut encore oser le regarder pour rester dans la justesse dont on a parlé, cette fameuse ligne de crête difficile à trouver.
Voilà. Et puis la semaine prochaine, on abordera un thème qui va un peu dans la continuité. On n'a vraiment pas du tout à être pharisiens parce qu'on est des héros. On est des vénards parce qu'on est sauvés par le Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune place pour l'orgueil et le pharisaïsme. Tout est donné, tout est cadeau de la part du Seigneur. Enfin, en tout cas, c'est ce cadeau, c'est cette joie, cette jubilation que nous souhaitons qu'ils habitent vraiment profondément votre cœur de personne, de couple, de conjoint, de famille, que le Seigneur répande vraiment ses grâces et ses merveilles dans chacune de vos vies, que vous soyez comblés par l'Esprit Saint, parce qu'il n'y a pas plus grande joie que de le connaître et de l'aimer.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace
Amen.